Eh bien donc bonsoir pour notre dernière rencontre de cette année. Déjà, mais on a remarqué, bon déjà, vous voyez là, il y a les élections, il commence à faire beau, on est moins nombreux que d'habitude. Et c'est vrai que quand on prolonge ces genres de rencontres en juin, alors là vraiment, on se retrouve, mais on peut se retrouver autour d'un café, en vrai, ce serait possible. Mais on avait, voilà, on avait décidé de vous laisser tranquille au mois de juin, et donc que ce soit notre dernière rencontre autour de Père, Mère, Fils et Fille. Donc bienvenue au Saint-Eustache et au Père Prigent dans cette maison de l'oratoire du Louvre. Et donc nous allons lire en fait les récits où il y a cette voix de Dieu qui parle au Christ, ou qui parle du Christ en fait, comme son Fils bien-aimé. Donc on a choisi de prendre le baptême et la transfiguration. Donc c'est des grands textes bien sûr, avec une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu dans un certain sens, ou en tout cas une voix de Dieu qui retentit, ce qui est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours, enfin je veux dire à ce point-là en tout cas. Alors comment lire ces textes? Comme toujours, bien sûr, ça parle de Jésus de Nazareth, qui est un homme historique qui nous intéresse grandement, j'allais dire, à différents titres. Mais ça parle aussi, finalement, cette voix de Dieu, ce Fils, ce Christ, ça parle aussi du Christ en chacun de nous. Donc cette voix, c'est aussi à nous qu'elle s'adresse d'une certaine façon quand elle s'adresse au Christ. Donc on peut partir à la recherche, je crois, de ce que nous dit cette voix du Père, donc dans l'Évangile selon Luc. En fait, on a choisi de prendre un seul Évangile pour que peut-être l'écho entre ces deux voix puisse s'entendre. Donc bienvenue Jérôme, merci.
C'est un texte qu'on va peut-être lire ensemble, mais auparavant je voudrais le situer donc dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc qui est un évangile prestigieux, hein, écrit dans une langue magnifique par un homme qui est un écrivain. On l'a dit médecin, on l'a dit proche de Paul, puisque Paul évoque une figure d'un homme qui s'appelle Luc, et la tradition la plus antique dit qu'il s'agit de l'évangéliste. Maintenant, on se demande si ça n'est pas plutôt un écrivain de la deuxième ou troisième génération. Vous savez, on parle en termes de génération, comme pour l'immigration en France, on parle de la deuxième, la troisième génération, de ceux qui ont reçu le témoignage des témoins oculaires qui ont reçu donc l'évangile. Or, dans l'évangile de Luc, il y a une allusion à la destruction de Jérusalem, la destruction de 70. Donc, on pense que, alors qui est présentée évidemment comme une anticipation par Jésus, mais on pense que l'évangile a été écrit donc après la destruction de Jérusalem, et donc par quelqu'un qui peut-être se réclame du compagnonnage de Paul, d'un courant, d'une école. Quand on dit un auteur dans l'Antiquité, ça n'est jamais une personne, hein. C'est toujours un groupe qui autorise le texte, puisque c'est le sens du mot auteur. L'auctoritas, c'est la garantie d'un texte, mais les textes sont souvent l'objet d'une rédaction collective, hein. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas imaginer l'écrivain inspiré comme dans les tableaux de la Renaissance avec un ange, voilà, et qui écrirait sous la dictée. Non, ce sont toujours des textes remaniés à partir de plusieurs documents, plusieurs sources, mais il y a quand même un travail d'écrivain dans le lifting, si on peut dire, de l'histoire, c'est-à-dire dans la manière de lisser la trame narrative, de sélectionner les informations, de les mettre en perspective, de les organiser, etc. Donc il y a un vrai travail d'écrivain. Et donc l'Évangile de Luc est un livre très travaillé, il y a même des effets de pastiche qui échappent, hein, lorsqu'on lit en traduction française, mais tout le début, l'annonciation à Zacharie, l'annonciation à Marie, est vraiment dans un style très biblique, très hébraïsant, alors que il y a d'autres passages, puisque Luc est à la fois l'auteur de l'Évangile et des Actes des Apôtres, il y a des passages qui sont quasiment des morceaux littéraires du grec le plus classique, en particulier les deux prologues. Vous savez, mon cher Théophile, ce sont des périodes oratoires dignes de Démosthène, hein, écrites d'un seul tenant, avec des propositions subordonnées, enchâssées les unes dans les autres. Même chose lorsque Paul parle dans les Actes des Apôtres aux Athéniens, c'est aussi un pastiche de la langue littéraire. Donc vous voyez, il y a des effets. Je me permets d'y insister hein, pour bien comprendre que, à côté de l'évangile de Luc, celui de Marc, c'est de la littérature de gare. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'évangile de Marc, mais c'est un récit extrêmement simple, presque simpliste dans ses moyens rhétoriques. C'est un évangile profondément inspiré, sublime, mais on n'est pas dans le même, dans le même genre historiographique ou littéraire. Alors, ici, donc, ce récit du baptême de Jésus, forcément, comme on est chez l'un des évangélistes synoptiques, on peut le lire en synopse, c'est-à-dire en parallèle avec Marc et Matthieu. Et déjà, là, il y a quelque chose d'assez étrange. Regardez comment commence le texte. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit. Pas trace de Jean-Baptiste. Il n'y a pas Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, dans le récit du baptême de Jésus par Luc. Et c'est là, évidemment, que lorsque nous lisons l'Évangile, nous sommes toujours parasités par nos images, par toute une iconographie, par des films, par les autres récits. Donc nous, nous voyons Jean-Baptiste. Malheureusement, il n'est pas là, puisqu'il vient d'être arrêté. Si je vous lis ce qui précède, Hérode, le tétrarque, qu'il reprenait, donc que Jean le Baptiste reprenait, ou m'origénait, réprimandait, au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, pour tous les méfaits qu'il avait commis, ajouta encore celui-ci à tous les autres, c'est-à-dire il ajouta un autre méfait à tous ses méfaits, il est digne de son père, hein, Hérode le Grand, il fit enfermer Jean en prison. Donc vous voyez, Jean disparaît de la scène, alors que chez Marc et Matthieu, c'est bien Jean le Baptiste qui dit « je ne suis pas digne de te baptiser », etc. Donc il y a là quelque chose de tout à fait étonnant, comme si dans la manière de raconter, il y avait déjà des choix théologiques qui étaient faits, et le choix théologique ici serait finalement de garder trace quand même de la présence de Jean, puisqu'on nous a raconté son histoire avant, mais en même temps de montrer que le précurseur, dans le présent de l'Église, n'est plus d'actualité. Alors, on va dire que ce n'est pas très sympa pour Jean le Baptiste, mais il a une place de choix et il meurt en martyr avant Jésus, et de même qu'après Jésus, il y aura Étienne. Hein. Jésus, la mort de Jésus est enchâssée, encadré par deux morts violentes, celle de Jean-Baptiste, celle d'Étienne dans les Actes des Apôtres. Mais Jean le Baptiste ne joue plus de rôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait probablement, à la fin du 1er siècle, des tensions inévitables, elles existent encore hein, dans notre Église, des tensions entre plusieurs groupes, et il y avait des groupes encore qui se réclamaient du baptiste, qui étaient des groupes baptistes. Et ils sont tellement présents sur le terrain, certains sont chrétiens d'ailleurs, il y a des baptistes chrétiens, qu'il faut arriver à les intégrer d'une manière ou d'une autre dans l'histoire du salut, dans l'économie du salut, et donc faire une place plus ou moins grande à Jean le Baptiste, tout en montrant quand même qu'il faut qu'il s'amenuise pour que le Christ grandisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le fête le 24 juin, au solstice d'été, comme on fête Jésus, la naissance de Jésus, au solstice d'hiver. Jésus est le soleil qui renaît, alors que Jean le Baptiste est le soleil qui décline, précisément. Luc va encore plus loin que Matthieu et Marc, puisqu'il l'élimine purement et simplement. Il n'est pas l'opérateur du baptême de Jésus. D'ailleurs, il est très, très évasif, on ne sait pas qui baptise Jésus. Regardez la première phrase, c'est étonnant. Comme tout le peuple était baptisé, on a l'impression, et ça c'est typiquement lucanien, Jésus vient accomplir. En grec, ça veut dire il vient accomplir, ça veut dire remplir. Il est celui qui parachève un processus. Donc tout le peuple a été baptisé. Alors évidemment, c'est une hyperbole. Tout le peuple n'a pas été baptisé. On s'en doute bien. Mais ici, Luc met l'accent sur le fait que le baptême de Jésus va signifier au fond la solidarité de Jésus avec l'humanité, avec le peuple. C'est un baptême de régénération, c'est un baptême qui efface les péchés. Jésus sans péché, selon la théologie la plus ancienne, Jésus n'est pas un pécheur. Alors pourquoi se fait-il baptiser? Ça a été aussi un problème. C'est pour ça que les contemporains de tous ces textes ont voulu évacuer. Ils ont gardé trace, mais vous voyez, une trace quand même minimale du baptême de Jésus, parce que ça gênait, ça ne correspond pas bien. Et en même temps, il fallait, comme je le disais, il fallait faire droit aux disciples du Baptiste, qui étaient encore très présents. Donc, on interprète ce baptême comme la solidarité profonde. Le mot baptême veut dire plonger, plongeon, le plongeon du Christ dans l'humanité, dans la pâte humaine, dans les eaux de l'humanité.
Ah oui, ça m'intéresse, cette histoire. Cela dit, je ne sais pas si, effectivement, déjà à cette époque, on était dans cette idée d'un Jésus sans péché. Je ne sais pas, ça apparaît quand. Parce que c'est vrai que... est-ce que quelqu'un peut être sans péché? Lui-même, il refuse le titre de bon, en fait. Il dit, non, Dieu seul est bon. Et ça, ça dépend si on met... souvent, en théologie, on fait la distinction entre le péché, en fait, qui est une rupture avec Dieu, et les péchés, qui sont les fautes que nous ne manquons pas de faire. À mon avis, que Jésus soit sans péché au singulier, je veux bien. C'est-à-dire qu'il soit dans une parfaite communion avec Dieu, ouverture à Dieu, recherche de Dieu, foi, finalement. D'accord. Sans péché au pluriel, à mon avis, c'est impossible en ce monde. Parce que, je le dis souvent, donc j'ai peur de lasser mon auditoire bienveillant, mais cela dit, c'est, si vous voulez, dans ce monde, on ne peut pas faire d'omelette sans en casser des œufs, quoi. Donc c'est absolument désolant. Mais dans un certain sens, on pêche contre les poules quand on fait une omelette en faisant des œufs, en cassant des œufs. Donc même Jésus était soumis à ce tragique, finalement, de l'existence humaine où...
Il n'est pas végétarien.
Il n'est pas végétarien, mais même s'il l'était, quand on coupe la salade, crac, elle était tranquillement en train de pousser, de s'épanouir au soleil et à la rosée du matin. Crac, quelqu'un vient avec un couteau, coupe la salade, la jette dans du vinaigre, c'est épouvantable comme torture. Donc... qu'on soit végétarien ou on ne peut pas manger que des pierres, et même quand on respire l'air, on en prive quelqu'un. On ne peut pas dire « je vais tout donner pour les pauvres » comme Jésus nous dit. Effectivement, si on voulait être parfait, il faudrait être dans le don total de soi. Mais ce n'est pas possible, je veux dire. L'air que je respire, je grille de l'oxygène dont je prive les autres, de toute façon. Ça, il n'y a pas de secret. Donc, ou bien Jésus, quand il guérit quelqu'un le jour du sabbat, c'est effectivement un péché, parce que, quelque part, c'est une injure à Dieu premier servi. Alors cela dit, moi je crois qu'il a raison, ce jour-là, de privilégier l'urgence de la compassion à l'observation aveugle d'un ritualisme étroit. Donc il a certainement raison. Donc dans ce sens, quand il choisit de guérir quelqu'un le jour du sabbat, il est sans péché au singulier, au sens où il est ouvert à la volonté de Dieu, ce que Dieu lui suggère à ce moment-là, mais il n'est pas sans péché au pluriel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a une faute, il fait une faute d'être pris dans cette contradiction, ce tragique de l'existence humaine, où on ne peut pas vivre d'une manière parfaite. On est obligé de choisir souvent le moindre mal, essayer d'optimiser, de ne choisir pas la bonne route, mais le chemin, un chemin optimum. Oui ?
Ça correspond à l'incarnation, on ne peut pas être incarné.
Exactement.
Attrapé en même temps.
C'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Et quand on... Oui, c'est ça. Donc, quand on dit Jésus, c'est cette proximité, cette descente de Dieu auprès de nous. C'est ça, finalement, un peu le tragique, si vous voulez, aussi, de ce qu'est le Christ. Et donc, sans péché au pluriel, je ne crois pas. Et donc, au premier titre, ce n'est pas simplement Dieu qui prend un peu une apparence humaine et puis qui fait un peu semblant pour être sympa, pour montrer un peu l'exemple aux hommes ou pour épouser la condition de l'homme, mais en faisant un peu semblant finalement, si vous voulez. Non, moi je crois que c'est le Christ vivant réellement ce tragique de l'existence humaine qui a besoin, comme les autres, de se voir pardonner ce tragique. Voilà, pardonner ce tragique, c'est-à-dire d'être pris dans cette ce tiraillement. Alors moi je pense que oui, c'est possible qu'il y ait cette raison historique du fait qu'ils veulent dire, écoutez, maintenant on rigole plus, la page Jean-Baptiste était très bien, mais maintenant on la tourne. C'est possible parce qu'il existe encore aujourd'hui des disciples de Jean-Baptiste. Bon, faut vite le dire parce qu'ils sont dans le fond de l'Irak là-bas. Et c'est pas la fête en ce moment par là-bas, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont immigré en France. Comment ils s'appellent ces gens? J'ai oublié. Ils sont disciples de Jean-Baptiste, en fait, et non chrétiens. Donc, en fait, ils font des baptêmes de purification dans l'eau, tout ça. Ils disent que Jésus est un gros nul, en gros. Et ils restent disciples de Jean-Baptiste.
C'est pas les Sabéens,
c'est peut-être chose comme ça. C'est les Sabéens ou chose comme ça. Ils parlent la langue, ils parlent l'araméen ou chose comme ça, voilà. Donc ils existent encore. Et on sait que historiquement c'était le cas. Il y a des gens qui continuaient à être disciples de Jean-Baptiste et qui n'ont pas suivi le Christ, qui n'ont pas reconnu plutôt que Jésus était le Christ. C'est possible. Moi je pense aussi que si vous voulez, c'est une raison avant tout théologique. Et je pense que Luc en particulier, il est pour la conversion, c'est-à-dire il est pour un appel à se tourner vers Dieu. Et assez souvent, on a cette idée hein, qu'on voit, je crois, pour la femme pécheresse, tes péchés sont pardonnés, bon, ça c'est réglé, c'est une affaire réglée, la question de l'amnistie, c'est réglé une fois pour toutes. Maintenant, passons aux choses sérieuses, donc tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Donc finalement, Jean-Baptiste, c'est une plongée dans cette grâce de Dieu, disant oui, on est pris dans ce tragique, oui, on fait des bêtises, oui, on a aussi, mais d'abord et avant tout, sentir ce Dieu qui nous est bienveillant. Finalement, peut-être cette voix du Père, tu es mon fils bien-aimé ou tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, passons aux choses sérieuses, cette affaire-là, la question de l'amnistie, de la bienveillance de Dieu à notre égard, c'est une affaire qui est réglée. Maintenant, passons à la deuxième étape, parce que la première, on n'a plus à y revenir. C'est une fois pour toutes. C'est cette bienveillance de Dieu radicale, avant même le pardon, au-delà même du pardon, finalement. Une bienveillance radicale, la grâce de Dieu. Jean, ça se dit Yohanan, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est une plongée dans le pardon, dans cette grâce de Dieu, etc., pour pouvoir s'ouvrir à Dieu, se tourner vers Dieu sans aucune crainte, sans se dire, bon, je suis encore un peu pécheur, je suis pris dans le tragique, ma foi est un peu limite, je suis plein de doutes, de théologie qui est à moitié véreuse, peut-être que Dieu ne sera pas content si je me tourne vers lui, etc. Non, Jean-Baptiste nous dit, voilà, cette grâce de Dieu, c'est cette immersion, cette plongée, ce grand saut, ce plongeon dans cette bienveillance de Dieu qui nous pardonne nos fautes. Et ensuite, un appel à la conversion qui va retentir, à mon avis, tout le long de l'Évangile. Et donc, maintenant, c'est le ciel s'ouvre, la voix de Dieu se fait entendre sur sa bienveillance et hop, allons-y par la foi. Donc, c'est un appel à la conversion, à se tourner, sentir et sans aucune crainte, se tourner vers ce Dieu qui est pour notre résurrection, dans un sens, ce don de l'esprit. Alors, Luc, c'est celui aussi de la Pentecôte, finalement, hein, ce don de l'esprit qui est annoncé à la Pentecôte. Bien sûr, ça, c'est écrit après cet événement de la Pentecôte. Donc, je crois qu'il y a ça un peu qui est en écho, finalement, hein, ce récit de la Pentecôte, peut-être, hein, à cet esprit qui est très présent ici, mais sous forme d'une colombe.
Oui, sur l'expression « sans péché », j'avais précisé parce que c'est la théologie qui dans son histoire, et la théologie est toujours un fardeau parce qu'il faut assumer 2000 ans de théologie, et les outils expressifs, les outils conceptuels changent forcément, et la théologie essaie toujours de balbutier quelque chose en sachant qu'elle ne peut pas dire... Et c'est vrai qu'en disant que Jésus est sans péché, elle l'a dit de Marie aussi d'ailleurs, parce qu'il faut... Enfin, voilà, quand on met le doigt là-dedans, on n'en finit plus. C'est aussi peut-être une manière de dédramatiser le péché, de dire qu'au fond c'est possible, puisque Jésus est totalement homme. Alors évidemment, si on fait la lecture inverse et on dit il est sans péché parce qu'il est Dieu, là c'est une catastrophe. Mais le montrer comme homme sans péché, c'est intéressant parce que la condition pécheresse de l'homme, moi je suis assez enclin à y croire. Je suis plutôt augustinien, donc. Mais en même temps, c'est pas facile à annoncer non plus, parce que l'homme contemporain se veut innocent. Il se veut l'homme d'avant la chute. Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il est pécheur. Et même en confession, c'est intéressant de voir que même des gens qui ont le sens du péché culturellement, s'imputer à soi-même une faute, c'est dans notre culture, dans notre langage, c'est devenu difficile. Puisqu'on s'auto-justifie sans cesse. Enfin, il y a voilà. Donc, je me disais que l'expression, s'il fallait la garder, et je pense qu'il ne faut pas la garder, mais au nom de l'incarnation précisément, mais s'il fallait en faire quelque chose, ou en tout cas la comprendre, c'est une manière aussi donc, de montrer que dans la faillibilité de l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas forcément tragique, que peut-être la rupture d'alliance consciente, qu'est le péché, puisque c'est un peu la définition du péché, une rupture d'alliance avec Dieu est quelque chose qui peut, au fond, dont on peut se libérer, c'est peut-être une manière de dédramatiser le péché.
Mais son péché au singulier, d'accord. Son péché au singulier, d'accord.
Mais ça,
pour
ça
le Christ,
me plaît bien, ça.
Et d'accord pour le Christ. Le tragique, il n'est pas forcément à ce niveau-là, finalement, qu'on soit obligé sans arrêt de continuer la faute d'Adam. Mais la faute d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le péché originel, mais qu'on appellerait plutôt peut-être le péché fondamental que nous faisons tous, je veux dire, quand nous sommes coupés de cette rupture que tu disais avec Dieu.
Oui.
Donc là, que Jésus soit sans ce péché-là, de rupture avec Dieu, d'idolâtrie de soi-même, je suis d'accord. Mais ensuite, ce tragique de l'existence humaine qui fait de l'incarnation, c'est autre chose. Et peut-être que justement, ce que tu me dis m'intéresse, c'est que se sentir sans péché, c'est peut-être un mal fondamental, oui, c'est ça. Hein, c'est peut-être un vrai problème. Mais si on dit que Jésus lui-même, je dirais à ce moment-là, c'est là que ça dédramatiserait peut-être.
Oui, oui.
Disons que, ben oui, de toute façon, tous, on est pris dans ce tragique de l'existence, on fait ce qu'on peut, on choisit toujours la. Nos routes sont toujours un peu problématiques. Peut-être ça peut dédramatiser, enfin je sais pas. Du coup, à pouvoir avouer, oui, c'est voilà ça, bah oui, ça, c'est pas terrible. Bon, qu'est-ce que j'en fais, mais je sais pas.
Mais c'est intéressant cette distinction sans péché au singulier, sans péché au pluriel. Mais d'ailleurs, dans les catéchismes catholiques que certains ont connus, il y avait la distinction entre le péché originel et les péchés actuels. Qui était soit mortel, soit vénial. C'était pas si bête, au fond. C'était qu'on distinguait quand même cette espèce de complicité dans le mal qu'est le péché originel, c'est-à-dire une inclination vers l'accomplissement de l'ego plus que vers le monde de Dieu. C'est vrai qu'en Occident, on a beaucoup mis la tête sous l'eau des gens avec ça, parce que ce péché originel, saint Augustin le voit partout, où il prolifère, c'est une gangrène. Et il est compensé et il est même dominé par la communion des saints, qui est la solidarité inverse dans le bien. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Mais de fait, quand même, on a beaucoup mis l'accent sur le péché originel. Mais c'est intéressant de distinguer péché au singulier, péché au pluriel. Alors, pour ce qui est de notre texte, c'est assez intéressant quand même. Bon, je lis avant la généalogie de Jésus, parce que c'est extrêmement bref. Comme tout le peuple était baptisé, c'est-à-dire plongé, Jésus, plongé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, le souffle saint, descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Alors, si on compare avec les textes parallèles, donc chez Marc et Matthieu, c'est très intéressant. Voici ce que dit Matthieu. Ayant été baptisé, alors cette fois Jean est présent, hein, il est là, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Donc c'est vraiment un baptême par immersion. Hein. Et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez, Luc dit « L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme s'il y avait une manifestation surnaturelle objective. Hein » Vous savez, tous ces arguments extrinsèques, comme on dit, les danses du soleil à Fatima, etc. Enfin, tout ce que les gens cherchent, une sorte de preuve extérieure. Matthieu dit pas ça. Matthieu dit il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et pas sous une forme corporelle, mais comme une colombe. C'est une métaphore, enfin une comparaison. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est à la troisième personne. C'est le haut-parleur divin qui annonce « Attention, celui-ci est mon fils bien-aimé. » Alors que Luc fait l'inverse. C'est uniquement Jésus qui entend « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » C'est intéressant, ils font l'inverse. C'est-à-dire que par souci apologétique et sûrement pour montrer à un auditoire qui est encore un peu avide de preuves extérieures dont il faut toujours se méfier. C'est le péché de Thomas quand même, hein. Tant que je n'aurais pas vu, etc. Bon. Luc, pour flatter peut-être ce besoin de preuves, fait une allusion à l'esprit qui descend comme une colombe, mais en revanche, après, il y a une sorte de réticence, et cette expérience est une expérience profondément mystique de Jésus avec son Père. Et d'ailleurs, Luc le dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, comme tout le peuple était baptisé, Jésus priait. Matthieu et Marc ne diront pas que Jésus prie. Donc c'est à la faveur d'une relation personnelle, interpersonnelle et intime que se fait la manifestation. Donc on a envie de dire à Luc, mais pourquoi tu as gardé la colombe ? Il n'y avait pas besoin, puisque Luc spiritualise la scène, mais en même temps, il garde une sorte de garant, objectif. On n'est pas uniquement dans le subjectif. Matthieu fait l'inverse, effectivement, puisque Dieu parle, le Père, la voix du Père, c'est le thème de ce soir, parle à la troisième personne. Et alors Matthieu, c'est passionnant, vous allez voir ce que dit Marc, donc le deuxième évangéliste. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer. C'est lui. Il vit les cieux se déchirer. Et il vit l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux, « Tu es mon fils. » Donc c'est Marc qui va le plus loin dans la spiritualisation de la scène, en montrant qu'il s'agit d'une révélation à Jésus. Vous me direz, Luc n'a pas besoin, parce que Luc, il a déjà fait les récits de l'enfance. Il y a eu la scène, vous avez, du recouvrement de Jésus au temple. Il a 12 ans, il est parmi les docteurs. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Donc on voit déjà chez Luc que Jésus est conscient de sa mission, de son appartenance et de son identité. Chez Marc, ce n'est pas le cas, puisque Marc commence avec le baptême. Mais c'est intéressant de voir que Marc, ce roman de gare, comme je disais tout à l'heure, ce roman un peu simple, eh bien, finalement, est celui qui a la vision qui, pour nous, est la plus recevable, la plus moderne, d'une certaine manière.
Oui, ça, c'est... je crois que c'est, l'histoire de la prière, c'est intéressant, de ce Jésus qui prie, parce que finalement, l'évangile, selon Luc, ouvre le ministère de Jésus par Jésus priant, et le termine par Jésus priant, et rendant « Père, je remets mon esprit entre tes mains sur la croix ». Et donc, il y a comme une sorte de... Voilà, pas de parenthèse, c'est pas ça, mais ça encadre. C'est comme si toute sa vie était cette prière au Père. Et là, on dit le peuple était baptisé, point. Et Jésus, il est baptisé et priant. Et ça, je crois que c'est intéressant, parce que finalement, c'est cette... il peut y avoir la volonté, peut-être, dans l'Église auquel s'adresse Luc... ou peut-être de redresser un peu dans une première église où on commence à mettre en place des signes, des rites, des sacrements peut-être. On commence à mettre en place cela. Peut-être qu'il y a l'idée de dire, bah, écoutez, ça ne suffit pas, cette affaire. Il faut y adjoindre la prière pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, aller au-delà finalement du baptême, pour aller jusqu'à une expérience directe de Dieu, un peu comme là, finalement, quelque chose de vraiment corporel, quelque chose de vraiment comme... Alors, c'est quand même pas... Il est quand même pas La colombe, c'est quand même pas un corps, en fait. Hein, c'est sous une image corporelle. Donc, c'est un peu... Et bonsoir, Père. Donc, il y a une...
Oui, mais il dit deux choses. Hein, sous une apparence corporelle et comme une colombe. Oui. Donc, on voit bien qu'il est tiraillé entre le... entre la métaphore et entre l'analogie et puis l'objectivité.
Mais sous une image corporelle, l'esprit sous une image corporelle, c'est presque le Christ, en fait, non?
C'est Morphée, hein, sous une forme. C'est Morphée, en vrai.
C'est Morphée ou c'est pas l'image?
Eidolon? Ah, je suis parti sans...
Je pourrais aller chercher mon grec au-dessus. Je crois que c'est Eidolon, ou chose comme ça, je crois. Mais je sais pas, hein, je pense que c'est image. Mais il faut aller chercher le grec en haut, ce serait peut-être plus prudent. Mais... En tout cas, bon, cette histoire de rajouter la prière, là, on retrouverait finalement le baptême d'eau et d'esprit dont parle Jean, c'est-à-dire qu'il y a le baptême d'eau, d'accord, cette plongée dans la repentance et dans la grâce de Dieu, et ensuite c'est la prière qui est ouverture à l'esprit, qui est de l'ordre, là, plus de la création, finalement. Et le baptême chrétien, c'est pas le baptême de Jean-Baptiste, c'est pas le baptême dont est baptisé Jésus, finalement. Ce n'est pas un baptême chrétien, ouais, c'est clair, fait. Puisque le christianisme, Jésus n'était pas chrétien, il était juif... J'allais dire juif libéral. Oui, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que bon...
Juif protestant.
Ben, il était juif, quoi. Donc, c'est vrai que c'était quand même... Il pratiquait un peu ça, mais il le pratiquait, bon, d'une manière souple et libre et responsable, en fait. Donc, c'était plutôt... voilà. Donc, en fait, il y a le baptême, qui est le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême de... j'allais dire de conversion, oui, ou de... De purification, voilà.
Il le dit juste avant l'arrestation. Hein. Donc c'est toujours dans Saint-Luc, c'est quelques versets au-dessus. « Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le feu, dit-il. » Alors, il ne faut pas se laisser... c'est une figure rhétorique qui s'appelle l'endiadyme, enfin... C'est bien d'être pédant de temps en temps. Et donc, on dit deux fois la même chose, en fait. Donc, l'Esprit Saint et le feu, c'est l'Esprit Saint qui est feu, le feu qui est esprit. Bon, c'est déjà une allusion à la Pentecôte.
Voilà. Mais donc, effectivement, du coup, je crois que le baptême dont nous baptisons dans l'Église, c'est ni le premier ni le deuxième. C'est pas le baptême d'eau. C'est-à-dire, c'est pas simplement un baptême de... Le bébé qu'on baptise, il a... Il n'est pas couvert de noirceur et de péché. Le péché originel, ça ne se transmet pas comme ça. Si je puis dire, c'est un péché fondamental qui est de se considérer comme le centre de l'univers. Bien sûr, le bébé se considère lui-même comme le centre de l'univers, mais il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Il est fabriqué comme ça et il a toute sa vie pour arriver à s'élever au-dessus de ça, justement. Donc, ce n'est pas un baptême de purification. Ce baptême que nous donnons, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. C'est un baptême qui est signe du salut qui est donné en Jésus-Christ.
Dans la Pâque.
C'est
le plongeon dans la Pâque.
C'est plongeon dans
et
tout ça.
Pas dans le Jourdain.
C'est plongeon dans tout ça, c'est-à-dire c'est le plongeon dans ce ministère du Christ qui commence comme ça, avec cette voix de Dieu qu'annonce la grâce. C'est le plongeon dans tout ce qu'annonce le Christ, dans ce qu'accomplit le Christ tout au long de ce moment-là et puis des autres moments de sa vie, y compris de sa mort et de sa résurrection. Donc, le baptême chrétien, c'est... s'ouvrir à tout cela, c'est marqué de tout cela, mais c'est pas non plus le baptême d'esprit. Comme dit Jean, l'esprit il souffle où il veut, quand il veut, et c'est pas nous en faisant des danses de la pluie qui forçons Dieu, ou des rites vaudous qui forçons Dieu à tout d'un coup se rendre présent. Il est présent, je crois, comme nous le dit ici ce texte, c'est-à-dire qu'il y a des rites, oui. Le bébé ou l'adulte qui est baptisé est au bénéfice de ça, mais ensuite il y a la prière, ensuite il y a cette expérience qui est sans cesse à espérer, à attendre et à faire finalement, qui est celle de cette expérience de Dieu quasi corporelle, en tout cas une expérience quasi sensible, nous disent les gens qui ont la chance de vivre ça. Ils disent pas c'est corporel, physique, mais ils pourraient dire c'est comme corporel, quoi. Et donc il y a ce don de l'esprit qui est une étape supplémentaire. Alors où se place le rite chrétien là-dedans? Eh bien, je crois que oui, il dit tout cela en même temps, il l'espère, il le promet, Mais ensuite, il y a une appropriation qui est, je crois, oui, proposée, qui est proposée en particulier dans ce texte, non ? Enfin, je sais pas très
oui,
bien.
Si. Mmh. Et c'est là qu'on voit que l'Église catholique aussi, dans la manière dont s'est constituée enfin, la tradition, et puis par rationalisme aussi, ça c'est l'héritage de la théologie médiévale, c'est vrai que l'Église a tendance à se méfier quelquefois de l'effusion de l'esprit au sens pentecôtiste ou au sens charismatique, même s'il y a ces courants qui existent bien sûr dans l'Église, mais c'est vrai que l'Église, par tradition, honore tellement la raison qu'elle a peut-être été trop prudente ou trop méfiante vis-à-vis de ce baptême de l'esprit, donc elle a peut-être trop tendance à dire que c'est le baptême sacramentel qui est le baptême d'esprit. Mais de fait, le baptême sacramentel, il peut aussi n'être qu'un rite de passage anthropologique, un rite de naissance, et il faut toujours mettre en garde, évidemment, les parents qui demandent une sorte de circoncision spirituelle, au fond, c'est pas seulement ça. Le baptême est un acte libre. On est juif par sa mère, on est musulman par son père, mais on est chrétien par choix, librement. Donc, il faut à un moment, effectivement, que... Alors, c'était le rôle de la profession de foi ou de la communion solennelle en France, qui est en train de disparaître, puisque à 12 ans... L'Église de France aujourd'hui estime que c'est peut-être pas tout à fait l'âge adulte.
La confirmation,
mais ça reste encore un rite sacramentel. Et de fait, le baptême de l'Esprit peut être expérimenté à tout âge. Et en général, les gens qui le vivent en éprouvent, alors peut-être pas de manière sensible, mais enfin quand même une consolation extrêmement forte. Et en tout cas, il parle de ce baptême en termes de conversion. Les églises évangéliques mettent beaucoup l'accent là-dessus. C'est vrai que l'Église catholique peine à admettre que les canaux de l'inspiration, de l'esprit, de la grâce puissent échapper à son contrôle, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, de fait, c'est une réalité. Le baptême de l'esprit n'est pas tout entier contenu dans... le rite d'ablution que l'on fait sur un enfant au début de sa vie.
Mais ce baptême d'esprit, ce n'est pas forcément quelque chose de violent et spectaculaire comme Pascal ou comme Paul qui tombe de son cheval, ou les extases mystiques de grands mystiques. Ça peut être cette forme-là, mais ça peut être quelque chose qui s'infuse, qui se diffuse, comme quelque chose que, je ne sais pas, tout d'un coup, on sent qu'on arrive à une certaine bienveillance, une certaine capacité à vivre la grâce ou à espérer Dieu. Moi, je crois que c'est des choses comme ça. Ce n'est pas forcément spectaculaire, comme pourraient le dire des églises qui insistent sur ce côté spectaculaire et qui le rendent quasi obligatoire, ce qui devient culpabilisant. Parce que on a été dans des extases mystiques absolument bouleversantes, fantastiques, comme Thérèse d'Avila, ou comme... pas forcément, je veux dire, chacun son style, chacun sa façon d'être. Ça peut être beaucoup plus diffus et finalement tout aussi réel. Mais enfin bref, je crois que là, il y a quelque chose qui nous appelle à quand même s'ouvrir à cet esprit par la prière. Alors quand on nous dit... Alors là, c'est sous forme de colombe. Et à la Pentecôte, c'est sous forme de feu. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Dans le judaïsme, on dit que la colombe, elle est quand même particulière parce que c'est l'animal du sacrifice. Alors, je ne sais pas, moi, je regarde les pigeons qui marchent sur les corniches de l'oratoire en face de ma chambre. Hein, je regarde. Et en fait, c'est vrai, quand ils marchent, ils tendent un peu le cou comme ça, vous savez. Et alors, les juifs disent que ça, c'est remarquable pour le pigeon, c'est qu'il tend le cou sous le couteau de son sacrificateur.
Oui.
Et que la colombe, elle fait un peu un bruit, un peu presque un peu une sorte de son cri, c'est un peu une sorte de gémissement ou de pleur. Enfin, je ne sais pas très bien comment dire. En fait, c'est ce qu'il est réputé. Voilà, avoir un cri qui est un peu comme un pleur. Donc peut-être que c'est déjà quelque part dans ce moment, cette prière du Christ, dans cet esprit qui vient comme une colombe, un peu une manifestation de sa vocation à épouser cette condition humaine l'accompagnement, la consolation et le sacrifice finalement. Alors que le baptême de la Pentecôte, c'est le même esprit, c'est-à-dire la présence agissante de Dieu qui vient comme dans la Genèse 1, 2 peut-être, je ne sais pas quoi, l'esprit qui vient et qui plane sur les eaux du chaos pour ordonner le chaos. Donc
c'est qui couvre le chaos.
Voilà, qui couvre le chaos. Donc c'est cet esprit-là, c'est le même esprit qui est à la création du monde, qui tout d'un coup se rend présent en Christ et va se rendre présent à la Pentecôte. Alors en Christ, il se rend présent comme une bienveillance, oui, comme un engendrement, on va le voir. Il se rend présent aussi comme une vocation dans le cadre du Christ, une vocation assez terrible, bien entendu. Mais pour nous, à la Pentecôte, qu'est-ce que ça pourrait être, le feu, si vous voulez ? C'est une image de purification, peut-être, aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amnistie, il y a l'idée que, oui, ben, nous avons du bien et du mal en chacun de nous, donc il y a du mal à purifier, d'accord ? Bon, ça, je crois que c'est intéressant. Et puis qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour cette purification, c'est quand même ça, c'est quand même déculpabilisant. Parce que, je veux dire, on fait ce qu'on peut, oui, et puis le reste, ben, Dieu le nettoiera comme il pourra. Et puis, il y a l'idée du feu qui éclaire aussi, et donc on a besoin de cette lumière. Et on la verra, je crois, sur la montagne de la Transfiguration, cette lumière qui revient. Donc je crois que c'est pour dire, en même temps, l'Esprit créateur de Dieu qui est donné. En même temps, ben, y a peut-être des vocations particulières, et celle du Christ est unique, bien entendu. Même si c'est notre frère et il épouse notre humanité, il a, j'allais dire, le même amour de Dieu pour lui que pour chacun d'entre nous, ce qui est quand même absolument stupéfiant, mais il a une vocation particulière, voilà, de colombe, et c'est quand même, j'allais dire, c'est mauvaise pioche pour lui. Pour nous, c'est plutôt bien tombé.
On parle d'ailleurs des charismes de l'esprit. Hein.
Oui.
Ce sont ces vocations particulières. Juste avant d'en venir à la généalogie, moi, ce qui me frappe, mais c'est peut-être parce que c'est mon métier de prof de lettres, c'est de voir comment le travail littéraire, finalement, permet l'élaboration théologique. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce texte est tissé de réminiscences. La théophanie, c'est un genre apocalyptique qui apparaît dans la Bible. Et on a tous les ingrédients ici. On a des stéréotypes. D'ailleurs, le ciel qui s'ouvre, l'esprit comme une colombe, et puis une voix qui se fait entendre. Donc, à partir de topos, hein, de clichés littéraires, on voit que Luc, c'est ça le génie littéraire, c'est toujours de faire du neuf, c'est thème et variation, si vous voulez, de faire du neuf à partir d'éléments anciens. Ce que Luc fait remarquablement dans les évangiles de l'enfance aussi, hein, où il reprend toutes sortes de réminiscences de l'Ancien Testament. Et ici, il apporte sa petite touche personnelle, qui est génial, en disant que Jésus priait. Voilà ce que ne font pas Matthieu. Matthieu est toujours un peu guindé, il est très hiératique, très grave, etc. Et Luc, finalement, pour moi, l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. Hein. C'est, c'est l'évangile où on trouve le fils prodigue, où on trouve la pécheresse pardonnée, etc. C'est vraiment l'évangile de la miséricorde, et où aussi l'accent mis sur la vie intérieure de Jésus est très fort. Et sur sa vie affective aussi, d'ailleurs, quand on le voit pleurer. Hein. Voilà, Jésus qui prie. Et donc, cette théophanie, finalement, intervient à la faveur de cette prière. C'est-à-dire l'acte le plus caché, le plus secret, le plus intime. Vous vous rendez compte de la promotion que ce texte fait de la prière comme acte humain essentiel. Nous qui avons souvent du mal à prier, etc., c'est vraiment une respiration, c'est ce qui nous fait homme et c'est ce qui nous connecte à Dieu. Et au fond, je pense qu'on a derrière nous des siècles de un peu d'intimidation sur la prière. On a l'impression que la prière, c'est forcément la rumination de textes ou bien l'application de l'esprit à un point de méditation, etc. Mais c'est de l'ordre du don, du temps donné, comme dans un couple, hein, le temps qu'on s'accorde l'un à l'autre, le temps qu'on donne à ses enfants, c'est une sorte de respiration de la vie intérieure. Et voilà, donc Luc, vous allez le voir dans l'évangile de la Transfiguration aussi, la Transfiguration n'intervient que parce que Jésus prie. Ce que les autres évangiles ne disent pas.
au fond, on va le voir dans, ce passage bien connu, la métamorphose de Jésus, d'ailleurs Luc n'utilise pas le mot, mais se fait à la faveur aussi de la prière, donc de l'acte le plus intime qui soit. Donc la théophanie, à la fois hollywoodienne, telle qu'on se l'imagine, et c'est là aussi qu'il faut faire le deuil de toutes ces représentations, hein. Une théophanie spectaculaire, eh bien au fond, ce qui la motive, et littérairement et théologiquement, c'est la prière de Jésus, c'est-à-dire son adhésion en profondeur à la volonté du Père, au désir du Père, à la vie du Père. Il est branché sur le Père, dans l'Esprit. C'est profondément trinitaire, d'ailleurs. Et alors, ce qui est étonnant, alors ça, c'est l'ironie lucanienne par excellence, c'est que Dieu dit, le Père dit, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et aussitôt, on nous donne la généalogie humaine de Jésus. Alors ça, c'est extraordinaire. On a Dieu le Père qui se manifeste et qui dit « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai... » Aujourd'hui, pas dans le sein de Marie, pas seul, à chaque instant. « Aujourd'hui, je t'engendre. » Puisque le passé composé, en fait, en grec, c'est du parfait, donc c'est du présent. Hein. « Je t'engendre aujourd'hui. » Et puis voilà qu'on dit « Il était fils de Joseph, de Élie, de Matthat, de Lévi. » Le « croyait-on » a été rajouté parce que pour la Torah, on est toujours fils de son père. Donc, bien que rabbiniquement, on soit juif et on appartienne à Israël et à l'élection d'Israël par la mère, on voit qu'on est encore dans le patriarcat. Donc, Luc n'est pas le seul à faire une généalogie. Matthieu le fait aussi, elle n'est pas tout à fait identique. Vous vous souvenez, celle de Matthieu, on l'avait lue avant Noël. Et celle de Matthieu remonte jusqu'à Abraham, Matthieu s'adressant à des juifs. Luc s'adresse aussi à des païens et il fait remonter en deçà d'Abraham jusqu'à Adam, fils de Dieu. Voilà, donc la boucle est bouclée, donc on respire, on se dit, ah, quand même, oui, donc la voix n'a pas menti, tu es mon fils, mais c'est une filiation qui se fait dans toute l'épaisseur des médiations humaines. Il a un grand-père, un arrière-grand-père, un trisaïeul, un bisaïeul, voilà.
Alors le aujourd'hui, oui, c'est le chaque jour, on ne sait pas une date précise, c'est l'aujourd'hui de cet engendrement de Dieu est à vivre, bien sûr, dans la quotidienneté de nos jours. Finalement, oui, si l'on veut, chaque jour peut être cet aujourd'hui pour nous. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a... Ça peut sembler contradictoire avec tout ce qui se passe avant, avec l'histoire de Marie, mais effectivement, je crois que les récits de l'enfance qu'il y a au début, qu'ils aient été rajoutés un peu plus tardivement ou qu'ils aient été tissés là dès le début, c'est finalement une mise en récit ou une mise en acte par Dieu, je ne vais pas trancher là-dessus parce que j'en sais rien, mais de cette réalité dont on parle là, c'est-à-dire de cet engendrement du Fils de Dieu dans l'homme, finalement. Donc je crois que, oui, voilà, c'est-à-dire c'est aujourd'hui de l'engendrement. Jésus le vit. Bon, Marc présente, oui, dans un sens, Jésus est Fils de Dieu par son baptême. C'est pas forcé hein, que Jésus soit Fils de Dieu par une conception miraculeuse. Il n'y a pas besoin de la conception miraculeuse pour que Jésus soit Fils de Dieu. Et là, dans un sens... Ça a pu gêner qui est marqué « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Donc, dans certains manuscrits de l'Évangile selon Luc, ça a été transformé par « En toi, j'ai mis toute mon affection, tout mon bon plaisir » ou je ne sais pas quoi. Alors, il peut y avoir là la référence de deux versets bibliques. Parce que « Aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré », c'est la citation du psaume 2. Alors que tu es mon fils en qui j'ai mis mon affection, je crois que c'est Ésaïe 42, ou je ne sais plus très bien lequel c'est. Oui. J'ai noté ça, Ésaïe 42:1. Donc il peut y avoir l'une ou l'autre référence. Alors on peut se demander, la question c'est qu'est-ce qu'a dit vraiment la voix ? Alors bon, c'est un peu puéril parce que comme le disait Jérôme, c'est une rédaction bien après, c'est une mise en récit de vérité théologique. La voix, que ce soit Jésus qui l'ait entendue, que ce soit les gens, quand c'est marqué comme ça d'une façon ou d'une autre, c'est la question de savoir quelle prédication, quel chemin de salut on nous propose à travers la rédaction qui est proposée. Ce n'est pas un reportage sur la manière exacte dont ça s'est passé, donc qu'importe. Mais de toute façon, si vous voulez, je crois qu'à ce moment-là, la conception miraculeuse, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe dans Marie, eh bien, c'est une... Si c'est historiquement, physiquement, matériellement la réalité d'une conception miraculeuse sans acte sexuel, c'est une mise en acte de Dieu dans l'histoire de cette vérité théologique qui, par ailleurs, est déployée ici à travers les mots et qui nous est proposée aussi pour qu'on se laisse engendrer par Dieu dans ce baptême d'eau et cette réception de l'Esprit. Si ça ne s'est pas réellement passé comme ça, c'est-à-dire une conception miraculeuse dans Marie sans relation sexuelle, à ce moment-là, c'est l'évangéliste qui fait une mise en récit de cette vérité sous une forme historique pour nous dire que ce n'est pas simplement l'extase mystique qui est en cause, c'est quelque chose qui doit vraiment marquer notre existence dans sa biologie, dans ses actes, dans nos fibres de notre être. Et c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement de l'extase mystique. C'est quelque chose qui s'incarne vraiment dans notre existence tout entière.
Oui, c'est Isaïe 42. La combinaison, effectivement. Donc la voix, vous voyez, même la voix, c'est pas encore ex nihilo, si vous voulez. C'est encore des réminiscences bibliques. C'est ça qui est passionnant. Comme si finalement, on va le voir d'ailleurs avec la transfiguration, hein, on accède à l'événement Jésus-Christ qu'à travers des textes. Ce que dit saint Paul d'ailleurs quand il est dans la synagogue à Antioche de Pisidie, et on voit bien que les textes, c'est grâce aux textes qu'on arrive à comprendre qui est Jésus. Les textes nous rendent lisible, compréhensible l'identité de Jésus, et en même temps ils ne suffisent pas, puisque il y a des docteurs de la loi, des scribes, etc., qui au contraire étaient tellement myopes sur les textes qu'ils n'arrivaient plus à voir que précisément ces textes s'accomplissaient dans l'histoire qu'ils vivaient. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on fétichise un texte, on court le risque de ne plus le comprendre précisément. Il n'y a plus cette distance. Donc les textes sont indispensables pour rendre lisible l'événement Jésus-Christ, son identité, qui est cet homme. Et d'ailleurs, on va voir dans la Transfiguration qu'au fond, les disciples qui sont là ne comprennent rien parce qu'ils ne comprennent pas que c'est l'accomplissement de texte. Et il faudra, toujours chez Luc, l'épisode d'Emmaüs pour que Jésus lui-même partage les textes et leur ouvre les Écritures. Donc, voilà.
Donc là, si vous voulez, c'est vrai qu'à travers c'est ce qu'on va voir dans la Transfiguration. En même temps, Moïse et Élie sont convoqués, c'est-à-dire que l'Écriture, donc Moïse c'est la loi et Élie c'est les prophètes, donc la loi et les prophètes, la Bible, est convoquée dans un dialogue avec le Christ. Mais en même temps, c'est le Christ qui met en lumière cela. Et au-delà de cette mise en lumière, Pierre veut s'installer dans ce dialogue entre le Christ qui met en lumière les Écritures qui discutent et ce dialogue entre les Écritures... Et cette vie du Christ qui met en lumière et notre existence et l'Écriture. Mais en fait, même ça, il ne faut pas s'installer dedans. Il faut aller à la rencontre, la relation à Dieu, et puis ensuite redescendre de la montagne et aller vers les hommes. Donc il faut même aller dépasser cette Écriture, même dépasser cette Écriture éclairée par un dialogue avec le Christ pour aller dans la vie réelle, dans un dialogue avec Dieu, une écoute de Dieu et aller vers les autres. Mais à travers ces deux références, si vous voulez, le psaume 2 ou Isaïe 42, il y a des types de messianité différents qui sont proposés. C'est-à-dire que le psaume 2, c'est un psaume royal qui dit que Jésus est roi de rois, finalement. Et Ésaïe 42, c'est le serviteur, ça annonce le serviteur souffrant, ça annonce un autre type de messianité qui est plutôt dans l'accompagnement, qui est plutôt dans la douceur, qui est plutôt dans de ne pas éteindre le lumignon, la mèche qui commence à fumer, à presque s'éteindre, à vaciller. Donc c'est vraiment dans la résurrection des petits, des faibles et dans les moindres traces de bonté, de beauté dans ce monde. Donc il y a déjà quelque chose qui s'esquisse. Mais déjà dans le « tu es », c'est déjà fou. C'est-à-dire, c'est, vous voyez, avant même qu'il ait rien fait, avant même que nous ayons rien fait, il y a cette promesse de l'être, promesse de « tu es vraiment quelqu'un ». Et quand Dieu dit à quelqu'un « tu es », c'est « tu es pour l'éternité ». C'est déjà le don de la vie éternelle, si vous voulez, c'est au-delà. Ensuite, « tu es mon fils », c'est-à-dire, c'est, en même temps, c'est une dignité royale qui est donnée à chacun de nous. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les deux ? Moi, j'aurais bien mis les deux. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, en toi, j'ai mis toute mon affection ». Ça aurait été bien d'avoir et le psaume 2 et Ésaïe 42. Ben oui, ben il n'y a qu'un des deux, tant pis. Enfin, il y a les deux, c'est ceux des manuscrits différents. Donc, quelle était la version originale qu'a peut-être dit Dieu ou que Luc avait mis dans son premier récit ? À mon avis, si vous voulez, c'est le « aujourd'hui, je t'ai engendré », qui est le plus problématique, évidemment. Car le lire en même temps que la conception miraculeuse, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, je crois que ça nous appelle, au-delà de notre naissance et des mystères de notre conception, même si nous avons une conception normale, ce qu'à la limite je vous souhaite, il y a cet engendrement qui est à vivre aujourd'hui dans l'expérience spirituelle. Donc, comme ça gênait un peu, peut-être qu'ils ont épousé une autre version, celle de l'affection. Mais bon, finalement, je crois qu'il faut garder, il faut tenir les deux. Alors, dans la généalogie, si on compte bien, il y a 77 noms. 77 noms. Alors, souvent, si vous voulez, donc 77, c'est 2 fois 7, si je puis dire. C'est-à-dire que le 2, souvent, dans la Bible, c'est le chiffre de la parole, du discernement. Donc, on a là quelque chose qui va bien avec l'idée du Christ comme, parole de Dieu faite chair. Cette parole qui est un. Et puis le 7, c'est le chiffre de la bénédiction. C'est le chiffre de la création, matérielle, mais bénie, qui est spirituelle aussi par ce don de l'esprit. Donc je crois que c'est ça qui nous est dit à travers ces 77 générations. Alors je ne sais pas s'il faut après chercher exactement qui est Yoda, Yohanan, Reza ou Zoro, je ne sais pas qui. Ce n'est pas si important. Bon, bien sûr, David, c'est important. David, il arrive à la 42e. Génération, donc bien sûr, ça c'est 6 fois 7. 6 fois 7, on est dans le basculement entre le 6e jour et le 7e jour. Donc ça vient dire dans un sens que Jésus, oui, il est dans la lignée de David, mais en même temps, David, il était encore dans l'humain, si vous voulez. Il est encore en basculement entre le 6 de la création matérielle et le 7 de la bénédiction, il a cette charnière. Le Christ, il est dans cette lignée, il est roi aussi, mais là, on n'est plus dans le même registre, si vous voulez, quand même. On est dans le registre du double 7. Le double 7, on est dans vraiment l'accomplissement de cette bénédiction par la parole qui est donnée au monde. Donc on sent comme une sorte de plan de Dieu qui maîtrise l'histoire, si vous voulez. Il y a cette création de Dieu qui est au début, qui est création matérielle. Donc Jésus est fils de Dieu au sens matériel du terme, où nous sommes créés par Dieu. En même temps, il est bien plus que ça, car il est... Il est ce verbe de Dieu, cette bénédiction de Dieu qui est donnée à l'humanité pour qu'enfin une humanité réelle soit créée. C'est-à-dire qu'enfin il y a un Adam qui soit créé en chacun de nous. Un Adam et une Ève, en fait, bien sûr. Donc voilà moi tout ce que je peux dire sur ce récit de baptême. Est-ce que tu as d'autres choses ou
Non, et puis je me disais que peut-être pour attaquer les dernières minutes, on peut peut-être écouter le récit.
On a une demi-heure encore.
Oui, oui, oui. C'est pour ne pas effrayer l'auditoire. Ouais. Valérie, peut-être tu voudrais lire le. Hop. Donc, la transfiguration. Alors, nous sommes 8 jours après, donc c'est aussi le 8e jour. Je te découvre féru de numéro.
Un petit peu. Non, je ne vais pas compter les syllabes, mais les lettres, mais bon.
Le 8e jour, c'est bien sûr le. La recréation du monde.
Transfiguration de Jésus. Jésus leur dit : Vraiment, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu. Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus en gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. Mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il y eut une voix venant de la nuée. Elle disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Or, le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Et voilà que du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, regarde mon fils, car c'est mon unique enfant. » Il arrive qu'un esprit s'empare de lui. Tout à coup, il crie, il le fait se convulser et écumer, et il ne le quitte qu'à grand-peine, en le laissant tout brisé. J'ai prié des disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Prenant la parole, Jésus dit « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je auprès de vous et aurai-je à vous supporter ? Amène ici ton fils. » À peine l'enfant arrivait-il, que le démon le jeta à terre et l'agita de convulsions. Mais Jésus menaça l'esprit impur, il guérit l'enfant et le remit à son père. Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. »
Merci beaucoup.
Merci. Donc vous voyez un texte qui serait intéressant, qu'il serait intéressant d'étudier sur le rôle dévolu au langage, sur le statut du langage, puisque vous l'avez vu, Jésus parle à ses disciples, Jésus monte pour prier, il y a une conversation entre le représentant de la loi, Moïse, et le représentant des prophètes, la loi et les prophètes, Élie. On pourrait dire aussi le premier prophète et le dernier, puisqu'il y avait une croyance dans les milieux pharisiens, notamment sur le retour d'Élie. On le voit bien d'ailleurs au moment de la mort de Jésus. On pense que Jésus sur la croix invoque le prophète Élie. Il y avait une attente. Et Jésus lui-même est au courant des projections que l'on fait sur lui et que certains voient en lui Élie revenu, puisque vous savez qu'Élie, dans la tradition, quitte ce monde sur un char de feu. Donc il y avait une attente un peu analogue à ce que connaissent les chiites d'ailleurs avec le dernier imam. Il y avait une attente eschatologique du prophète Élie. Donc on a la loi et les prophètes, on a le premier prophète et le dernier prophète qui conversent. Donc il y a une conversation. Il y a ensuite le temps de silence. Lorsque Jésus est seul, on voit que les apôtres se tiennent en silence. Et puis ensuite, il y a encore peut-être un effet d'ironie lucanienne que je pointais tout à l'heure dans la généalogie de Jésus, mais on vient de vivre une théophanie sur la montagne, celui-ci est mon fils, donc confirmation de la voix et de l'investiture messianique qui avait été faite au moment du baptême, et on voit immédiatement après un père qui vient plaider en faveur de son fils unique, et un fils unique qui écume, qui se convulse, qui crie. Donc vous voyez, nous avons, je crois, toute la palette de l'expressivité humaine ici, entre le silence des apôtres devant le mystère de la théophanie, et puis cette crise d'hystérie que Jésus va apaiser. Par ailleurs, bien sûr, un petit peu comme je le disais sur le tissage littéraire du texte, nous avons bien sûr des stéréotypes que Luc réinvestit et auxquels il va donner une portée théologique. La montée sur la montagne, évidemment, a toujours une symbolique très, très forte, obéit à une symbolique très forte. C'est le lieu de la prière chez Luc. Hein. À 6 reprises, on voit Jésus se retirer sur la montagne pour prier. Donc c'est le lieu du face-à-face, bien sûr, de Moïse et d'Élie sur l'Horeb. Moïse et Élie sont deux patriarches ou deux ancêtres du peuple hébreu qui ont rencontré Dieu sur la montagne. Donc Jésus, à son tour, se coule hein, dans ce modèle mystique de la rencontre de Dieu sur la montagne. Et nous voyons ici, donc au 8e jour, Jésus qui monte sur la montagne. Et j'attire votre attention évidemment sur ce que nous disions tout à l'heure à propos du baptême. Il monta sur la montagne pour prier, et c'est à la faveur de cette prière, donc à nouveau de cette relation intime avec le Père. On peut imaginer d'ailleurs le décor, hein, peut-être un peu sauvage, on ne s'attend évidemment pas du tout à la théophanie qui suit, et c'est à la faveur de cette relation intime avec le Père que la manifestation s'opère. Et Luc n'utilise pas le terme de transfiguration. En grec, c'est métamorphosis, hein, c'est-à-dire le changement de morphée, le changement de forme. Donc, qui a donné en latin donc transfiguration ou transformation. Luc ici a des réticences narratives. Il ne souhaite pas en faire trop, je dirais, dans le côté spectaculaire de la scène, de la manifestation. Il nous dit simplement, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une blancheur éclatante, laissant entendre d'une certaine manière ce que disait un peu tout à l'heure Marc, que l'être de Jésus préexiste aux différentes circonstances de sa vie, où il laisse passer quelque chose de son identité. Mais cette identité, évidemment, il n'en reçoit pas l'investiture à ce moment-là. Cette blancheur éclatante, l'aspect de son visage, viennent et sont d'une certaine manière motivés narrativement, littérairement, par l'acte de la prière. C'est l'acte de la prière qui fait ressortir l'identité profonde de Jésus. Alors évidemment, là aussi, nous avons des stéréotypes. Hein, la blancheur, c'est l'appartenance au monde divin. Et Moïse et Élie appartiennent aussi pleinement à ce monde, et on les voit qui évoquent, qui parlent de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Son départ, en grec, c'est exodos, c'est-à-dire son exode. On traduit quelquefois un peu trop rapidement par la mort, mais de fait, il s'agit d'une allusion à la Pâque du Christ. Jésus, juste avant, vient de révéler qu'il allait monter à Jérusalem. Et vous le savez, après la confession de Pierre, après la profession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, les disciples ont du mal à entendre l'annonce de la Passion. Et ici, donc, il y a confirmation de cette Passion, confirmation éclatante, avec, bien sûr, l'appui de la loi et des prophètes. Donc Moïse et Élie viennent signifier ici que c'est la loi et les prophètes, c'est-à-dire la Torah et les Neviim, l'ensemble de la tradition prophétique, qui viennent confirmer ce que Jésus a dit, à savoir l'annonce de sa passion, en ajoutant d'ailleurs un détail supplémentaire, à savoir que cette Pâque, cette passion et cette résurrection se vivront à Jérusalem. Alors, bien sûr, les apôtres qui sont les témoins privilégiés ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas
les outils scripturaires, et il faudra attendre Emmaüs pour qu'il les ait d'une certaine manière, il n'accède pas à la signification plénière de ce qu'ils vivent, d'où la maladresse de Pierre, évidemment, mais aussi le fait qu'il ne voit que la gloire. Et comme le dira le théologien Balthasar, la gloire est la croix. La gloire est l'envers de la croix, mais il faut la croix pour accéder à la gloire. C'est le grand mystère, bien sûr, sur lequel notre raison achoppe, et la raison des disciples aussi. D'ailleurs, ils dorment, ils veulent planter des tentes, etc. Enfin, vous voyez que leur réaction n'est pas tout à fait appropriée à la grandeur de la théophanie qu'ils vivent.
Alors, oui, c'est l'Exode, je crois que c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est un rappel de la Pâque. Et l'Exode, il s'agit de quitter l'esclavage pour aller donc dans la terre promise. Et c'est justement ce qui est promis dans un sens dans le premier verset, le verset 27. Vraiment, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu. Donc le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le pays, et c'est le lieu de la vie éternelle, donc du huitième jour, du jour qui n'a pas de fin finalement. Et il y a la promesse là, donc, d'être dans, pour reprendre le langage de l'Apocalypse, si vous voulez, mais qui était quelque chose qui était attendu dans ces milieux, dans un sens, c'est la Jérusalem céleste, en fait. Donc c'est l'Exode, c'est ce cheminement qui devient effectivement formidable, j'allais dire, autour de l'événement dramatique de la fin de la vie de Jésus sur Terre, mais qui, tout au long de sa vie, c'est bien ça qui est en cause, c'est d'arriver donc dans la vie en ce monde, puisque c'est bien ça qui est dit ici, hein, c'est avant même la mort de notre corps, de vivre l'expérience de ce règne de Dieu, de ce royaume de Dieu, donc de cette Jérusalem, donc de vivre aujourd'hui cet exode, de vivre dans notre vie cette Pâque. Jésus est venu pour ça, en fait. À moins qu'il ait totalement échoué, c'est bien ça qui est proposé. Alors, on pourrait se dire, mais parmi ceux-ci, ça va être les trois qui vont vivre la transfiguration. Mais à ce moment-là, ce récit, on peut dire que c'est un vieux récit pourri qui ne sert plus à personne aujourd'hui, finalement. Non, le récit, chaque page de l'Évangile est donné à toute génération, à tout homme, à toute femme, parce que c'est nous qui sommes aussi le héros de chacune des pages de cet Évangile, voilà, bien sûr. Donc, c'est un peu une forme rhétorique pour dire « Certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu. » Je dis « Et puis moi aussi, peut-être. » Oui, c'est un appel pour nous aiguiser l'appétit, pour qu'on puisse se dire « Moi aussi, je veux être pris par Jésus-Christ et amené sur la montagne pour prier. » Donc, de se mettre dans cette suivance du Christ. Mais là, en même temps, c'est sympa parce qu'il y a cette élection, finalement, cet appel. Eh bien, cet appel qu'il lance à Jacques, à Pierre, Jacques et Jean, finalement, à travers ce texte, il y a cet appel qui est adressé au lecteur ou à celui qui l'entend, disant « Mais toi aussi, t'es appelé à vivre, à monter cette montée sur la montagne pour prier. » Alors, tu disais, il n'y a pas marqué pour prier dans Matthieu, il y a marqué que la montagne. Mais en fait... Luc s'adresse à des Grecs plus que peut-être, ou pas seulement à des hébraïsants, c'est-à-dire des gens qui étaient férus de langue hébraïque et puis du Premier Testament, de la loi et des prophètes. Tous ceux qui lisaient l'Ancien Testament, le Premier Testament, savaient finalement que la montagne, c'est le lieu de l'adoration et de la prière. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter pour prier. Mais chaque fois qu'on voit le sermon sur la montagne, c'est le sermon en prière dans un sens, hein. Donc Luc, s'adressant à des gens qui n'ont pas forcément cette culture, détaille un peu en disant oui, il s'agit ici d'avoir cette élévation de Dieu par la prière, et tout d'un coup il voit donc il y a un changement de visage de Jésus, mais c'est pas vraiment Jésus qui change, c'est enfin c'est-à-dire sa vraie nature apparaît à travers la prière, à travers l'expérience mystique, peut-être au lieu de voir simplement l'homme, ou au lieu de voir simplement le maître, comme le dit Pierre au verset 33, c'est-à-dire l'enseignant, celui qui a des bonnes idées, qui est philosophe, qui est un éthicien, un moraliste, quelqu'un qui vient remettre un peu la religion à sa place, à sa juste place, pas pour la bazarder, mais pour que ça soit au moyen de la foi, pas à la place de la foi, enfin je sais pas. Au lieu de voir simplement lui le maître, le philosophe et l'éthicien, de voir quelque chose de beaucoup plus formidable que ça. Au lieu même de voir le prophète, parce que certains le voyaient comme prophète. Voyez là, Jésus est, il dialogue avec, il est plus que prophète. Les autres, ils portent des paroles, mais Jésus, il est lumineux, c'est-à-dire que, vous allez dire Moïse aussi, quand il descend de la montagne. Mais là, dans ce dialogue, il y a Moïse et Élie, et il y a Jésus qui devient, qui n'est pas simplement éclairé par la parole de Dieu, si vous voulez, avec son visage qui reflèterait, mais il a la lumière en lui-même. Mais ça, en même temps, c'est ce qui nous est proposé aussi, hein, quand Matthieu nous dit, vous êtes, vous, individuellement, la lumière du monde, brillez. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui nous est donné à chacun aussi, mais ici, il y a ce dialogue avec cette mise en lumière qu'est Jésus, mais avec cette mise en lumière qu'est Jésus, pour nous, je ne veux pas dire que les Juifs n'ont pas la lumière, si vous voulez, je ne suis pas du tout dans cette idée-là, mais là, pour nous, c'est Jésus qui met en lumière Moïse et Élie, et ils apparaissent en gloire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont une légion d'honneur. La gloire, dans ce cadre-là, surtout dans ce rappel de l'Exode, la gloire de Dieu, en gros, c'est cette colonne de nuée qui est en question ici aussi, dans lequel Dieu donne sa parole, et cette colonne de nuée qui guide les Hébreux sur le chemin de l'Exode, le chemin vers le lieu de la promesse. Donc on pourrait dire que c'est la présence agissante de Dieu, on pourrait dire le Saint-Esprit dans un sens. On pourrait dire que enfin, pour eux, pour nous, par le Christ, Moïse et Élie deviennent, apparaissent en gloire. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une réincarnation ou de faire du spiritisme et de faire parler les morts qui sont très bien là où ils sont et qui sont dans une autre réalité. Mais il s'agit que leurs témoignages, tout d'un coup, deviennent efficaces pour nous donner, nous faire un pas de plus dans cet exode, finalement, vers la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces écritures qui auraient pu être moralistes, qui auraient pu être ritualistes, qui auraient pu être culpabilisatrices, ou je ne sais quoi, pour nous. Bon, pour d'autres, elles peuvent être paroles de vie autrement, j'en sais rien. Mais, en tout cas pour eux, le témoignage de ces hommes, c'est que par Jésus-Christ, tout d'un coup, Moïse et Élie, dans leurs paroles, dans leurs témoignages, dans leurs livres, ça devient parole de vie, finalement. C'est-à-dire que ça les rend tout d'un coup... Ben peut-être, oui, entendre cette voix, entendre cette, être en relation avec Dieu, ou en tout cas, être éclairé, peut-être même devenir eux-mêmes lumineux, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que c'est ça qui se joue, si vous voulez, c'est dans cette gloire, c'est là encore, devenir tout d'un coup, voilà, la colonne de feu. Ils deviennent colonne de feu pour eux, c'est-à-dire quelque chose qui les guide dans cet exode vers la terre de la promesse, c'est-à-dire pour nous, vers l'être dans le règne de Dieu. C'est-à-dire avec... quand on dit le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est le même mot en grec, hein, ou en hébreu d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire un lieu spécial avec, où on a 70 vierges pour se réjouir et faire la fête dans une partouze géante, comme c'est promis à certaines personnes que je ne citerai pas. Mais on est dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, quand Dieu peut enfin agir dans notre être et nous donner la vie. C'est-à-dire, c'est ça plutôt. C'est qu'on laisse Dieu, tout d'un coup, Dieu peut agir et pour nous donner un cœur de chair, un cœur qui aime, pour nous donner des yeux qui voient clair sur la réalité, la beauté du monde et des êtres qui nous entourent. C'est ça qui est en cause, je crois. Grâce à Jésus-Christ qui, tout d'un coup, est révélateur de l'Écriture, qui devient, du coup, parole. Alors quand on dit que l'Écriture, la Bible est parole de Dieu, c'est évidemment faux, c'est clairement faux, c'est pas parole de Dieu, c'est de l'encre sur un papier. La parole de Dieu, c'est une parole vivante, il y a besoin de cet Esprit Saint, de cette prière du Christ, prière avec le Christ, pour que cette Écriture devienne parole de Dieu pour nous. Donc c'est pas sans rapport entre l'Écriture et la parole de Dieu, mais on en fait une idole de papier si tout on dit que la Bible est parole de Dieu. Elle n'est parole de Dieu que si elle est éclairée, glorifiée. Si tout d'un coup, ça devient présence vivifiante de Dieu pour nous. Et ça, c'est une autre paire de manches.
Et effectivement, on voit que l'Écriture ne suffit pas à faire accéder à l'identité de Jésus. Parce que, pourtant, tous les ingrédients sont là. On évoquait bien sûr la montagne, mais il y a aussi la nuée. la nuée qu'on trouve dans la vision d'Isaïe, dans le temple, la nuée, la colonne de nuée, bien sûr, aussi au désert. Et malgré tout, on voit que Pierre, dans sa réaction, réagit avec un autre emprunt à la tradition juive et à la tradition des Écritures. C'est l'histoire des tentes, là. Plantons des tentes. C'est évidemment la tente messianique, la tente, si j'ose dire, l'espérance messianique des tentes, des tentes éternelles. Et c'est aussi la fête des tentes, la fête de Soukhot, qui est une fête qui est fêtée après Kippour, qui est une fête qui anticipe le banquet eschatologique, qui anticipe l'accomplissement d'Israël avec qui vit la présence de son Seigneur, avec son Seigneur. Et donc, on voit bien que Pierre répond en puisant lui aussi dans la tradition, mais il va trop vite. C'est-à-dire qu'il pense que cette révélation, ce dévoilement de l'identité de Jésus, dont il saisisse quelque chose, est déjà la réalisation eschatologique, messianique, des espérances d'Israël. Et donc, les tentes, ici, ce n'est pas une réaction farfelue de randonneur, hein, c'est vraiment profondément, profondément religieux. Donc, Pierre, lui aussi, est nourri par toute l'espérance d'Israël, mais il va trop vite, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, faute d'avoir suffisamment d'être entré suffisamment dans l'intimité des Écritures, il ne comprend pas que l'identité de Jésus, le déploiement de cette identité, va passer par la Passion et par la Pâque. Alors, c'est intéressant de voir ce récit de la Transfiguration comme un dévoilement de qui est Jésus, hein, tu as dit, de sa vraie nature, parce que je me suis amusé à voir tout ce qui venait avant ce récit. Et par trois fois, on voit qu'on se pose des questions sur l'identité de Jésus. Il y a le fameux banquet chez Simon le pharisien, où il y a cette femme pécheresse qui vient, qu'on assimile à Marie-Madeleine, vous le savez, qui vient baigner les pieds de Jésus. Et on voit les invités du repas, du banquet, les convives, qui disent « Mais qui est cet homme qui peut pardonner les péchés ?» Donc, vous voyez, c'est la question juive, c'est celle du pardon des péchés. Ensuite, on voit Hérode qui dit « Mais quel est cet homme qui accomplit tant de prodiges ?» Donc, vous voyez qu'Hérode a des réactions plutôt païennes, puisque les prodiges, ça intéressait plutôt les païens, le monde grec. Donc, vous voyez, il y a la double interrogation à la fois juive. Qui est cet homme qui pardonne les péchés comme Dieu, le Dieu d'Israël ? Et puis, il y a la question païenne. Mais au fond, faites-moi venir ce thaumaturge qu'on rigole un peu. Et d'ailleurs, vous le savez, au cœur de la Passion selon saint Luc, il y aura une visite chez Hérode. Pilate envoie Jésus à Hérode, et Hérode est très déçu d'ailleurs, parce qu'il ne voit pas évidemment le prestidigitateur qu'il rêvait de voir. Donc il y a cette double question, et Jésus, peu de temps avant la Transfiguration, demande à ses disciples « Qui suis-je pour vous ? Qui suis-je ? Qui dit-on que je suis ?» Et ensuite, de manière plus personnelle, « Pour vous, qui suis-je ?» Ce qui permet à Pierre de faire la confession spontanée. Encore, Pierre, c'est le brave type, hein, l'homme qui est vraiment dans la spontanéité du moment et qui dit toute son allégeance à Jésus. Et bien sûr, avec les tentes, on est dans le même type de réaction. Alors, évidemment, le texte nous donne la preuve que les Écritures et toute la tradition d'Israël ne suffit pas pour les contemporains de Jésus à comprendre qui il est. Voilà. Et ce qui frappe, évidemment, c'est la solitude de Jésus. Au moment où la nuée s'estompe, on nous dit « Pendant que la voix parlait, Jésus se trouva seul et ils gardèrent le silence. » Ce qui prouve bien que les Écritures sont une médiation indispensable. Encore une fois, l'événement christique n'est pas lisible sans les Écritures.
et en même temps, si on les fétichise ou si on, si on borne ses regards à la lettre tue, l'esprit vivifie, saint Paul le dira, on n'accède pas au mystère qui est en train de se jouer et que Jésus seul maîtrise et dont il est le seul, d'une certaine manière, à avoir la connaissance intime, hein, pas au sens théologique, mais la connaissance vitale, existentielle. Jésus se trouva seul et ils gardèrent le silence. Je crois que c'est... Voilà, il y a des éclats de génie comme ça dans les textes évangéliques, et vraiment cette solitude de Jésus, je crois qu'elle impose un tel respect, peut-être plus encore que les manifestations théophaniques, spectaculaires. Il y a un isolement grandissant de Jésus, et juste après commence la montée à Jérusalem et la deuxième partie de l'évangile. Il y a deux parties chez Luc, il y a toute cette partie qui culmine à la transfiguration, et il y a cette montée à Jérusalem qui joue un beaucoup plus grand rôle que chez Marc et Matthieu. Cette montée à Jérusalem dont on nous dit, et c'est le chapitre qui suit, que Jésus durcit sa face, il fixa sa face comme le serviteur souffrant vers Jérusalem. Il y a une espèce de détermination absolument résolue, hors de tout tragique, hein, qui est au contraire l'accomplissement de sa liberté et de sa destinée d'homme. Jésus durcit sa face vers Jérusalem, c'est immédiatement après ce récit de la Transfiguration. Donc quelque chose du voile du mystère s'est levé, et les Écritures et la tradition hébraïque ne suffisent pas à ce que Jésus puisse expliciter totalement l'entièreté de sa mission.
Alors moi, c'est vrai que j'avais pas noté que Pierre faisait cette confession de foi à Jésus, tu es le Christ de Dieu, juste avant, en fait, quelques versets avant. Et donc, c'est vrai que j'avais des doutes sur cette histoire. Quand il appelle Jésus maître, souvent, c'est quand même plutôt le signe de quelqu'un qui n'a pas bien capté, en fait, qu'est-ce que c'est que Jésus, et le traiter d'enseignant, finalement. Mais peut-être que dans ce contexte, tu as peut-être raison, c'est maître au sens où il est vraiment reconnu comme Christ. C'est possible, hein, que Pierre soit encore dans cette dimension-là, soit toujours dans cette dimension-là. Bon, après, c'est quelques versets qui sont à l'écart. Et donc, moi, c'est vrai que je trouvais que c'était assez sympa, sur la Pierre, qui est quand même, parce qu'on pourrait dire, s'installer dans une tente, vouloir camper, c'est vouloir... Il y a un manque de dynamique, peut-être, mais non, parce que la tente, c'est quand même prêt à être démontée, à avancer. Il se met dans ce cheminement. Mais quand Jésus refuse, alors, c'est parce que, finalement, ils sont déjà au but. Donc, il n'y a même plus besoin de tente, finalement, peut-être, au contraire, non ? Je ne sais pas très bien. Pourquoi, tout d'un coup, Jésus refuse le coup des tentes ? Parce que je trouve que c'était une bonne idée, moi, de se placer dans cet exode, dans cet entre-deux où nous sommes tous. Mais peut-être que ce texte nous dit que, ben non, vous êtes dans le huitième jour, vous êtes maintenant arrivé au but, finalement. Et peut-être qu'il faut être à ce moment-là dans l'écoute. Voilà, il y a marqué au moment où la voix se fait entendre, celui-ci est mon fils que j'ai élu, écoutez-le. Il y a écouté le Christ, mais il y a aussi de dire finalement le reste, ça n'a plus d'importance. Vous cherchez, on cherche et on ne trouve que Jésus seul. Il n'y a pas marqué Jésus se retrouve tout seul. Il y a marqué au moment où la voix, pendant même que la voix retentit, il ne fut trouvé que Jésus seul, en fait. C'est-à-dire qu'il ne trouve plus que Jésus tout seul. Et quand ils sont dans l'écoute de ce qu'est Jésus, de ce qu'est donné en Christ, on ne voit plus que Jésus seul. Peut-être on ne voit plus que Jésus seul, c'est-à-dire ce qu'est fils de Dieu dans le frère, la sœur qu'on rencontre. Peut-être que, finalement, oui, il y a encore le péché, la difficulté de vivre en ce monde, mais on est dans cette espérance qui relativise dans un sens, qui ne fait pas que c'est rien, si vous voulez, parce qu'on va s'engager dans le monde comme on le voit. Ils redescendent, hein, mais pour trouver face à la maladie, face aux difficultés, mais ils voient Jésus, ils ne voient plus que Jésus seul. Et dans
on
un
pense
sens,
à Emmaüs, c'est-à-dire quand il disparaît, au moment où ils le reconnaissent, à la fraction du pain, après qu'il leur a ouvert le sens des Écritures, Jésus disparaît. C'est un peu du même ordre. Et pour moi, il y a un lien que je découvre ce soir entre la transfiguration et Emmaüs. C'est chez Luc, et dans les deux cas, il y a un lien aux Écritures et il y a un au-delà des Écritures.
C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, il y a même plus besoin du Christ dans un certain sens, parce que ça y est, ils sont dynamisés, ils sont ressuscités par le Christ dans Luc 24, donc avec Emmaüs. Mais ici, c'est un peu ça, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin des tentes, parce que dans un sens, ils sont déjà dans le règne de Dieu, le royaume de Dieu, parce que tout d'un coup, ils savent discerner ce qui est christique. D'abord, la vraie nature de Jésus de Nazareth comme Christ de Dieu, qui est une vocation unique, mais plus largement comme ça, cette écoute du Fils de Dieu, qui est élu, choisi par Dieu, on sait le discerner en soi-même, on sait le discerner dans le frère, la sœur à côté, on sait discerner peut-être dans la trame même de ce monde, quelque chose qui est de l'ordre du verbe même de Dieu qui est présent. Et du coup, les choses, la réalité est vue complètement différemment, finalement. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'on est un peu au terme de notre
parcours. Voilà, et le hasard me fait tomber sur un texte qui est juste avant la transfiguration, c'est au chapitre 8 de Saint Luc. Je crois que pour ce thème de l'année sur la filiation, sur la paternité, la maternité, l'engendrement, la fraternité aussi, qui est quand même le cœur de l'Évangile, cette fraternité nouvelle qui est le dépassement de la fratrie, qui va au-delà de l'appartenance clanique à la fratrie, cette fraternitas que Jésus inaugure parmi nous, elle est toujours, bien sûr, elle prend son envol et elle trouve ses racines dans ce lien extrêmement fort, fondamental, vital, vivifiant qu'il a avec son Père. Et on le voit bien, les deux théophanies, ces deux manifestations de Dieu dans la trame de l'histoire de Jésus se fait, encore une fois, à la faveur d'un temps de prière. Donc je crois que ça nous invite, bien sûr, à redécouvrir ce qu'est la prière chrétienne, hein, comme respiration essentielle, vitale aussi dans nos vies, comme disponibilité au don qui nous est fait, au don de la vie. Il faut sans cesse désensabler la source qui est en nous. Et je termine par ces quelques versets, et je me dis que c'est un beau clin d'œil, parce que je n'y pensais plus, je ne savais plus que c'était chez Luc. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Mais il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » C'est une belle conclusion, parce que on dit toujours que Jésus est sévère avec sa mère et ses frères, mais ça n'est pas ce qui ressort de ce texte. Il nous invite à découvrir que très profondément, très charnellement et très réellement, il y a quelque chose qui, entre tous les baptisés, circule, cette sève de la vigne. Hein, on vient d'écouter cet évangile cette semaine, la vigne dont nous sommes les sarments. Nous ne pouvons pas fructifier en étant séparés de lui. Il y a cette famille humaine qui n'est pas fondée uniquement sur de la morale ou sur des considérations humanistes ou philosophiques, mais qui a son fondement dans l'histoire des hommes, dans l'incarnation du Fils parmi nous, dans le fait que le Fils s'est manifesté à nous et que ce n'est pas une option philosophique parmi d'autres, ce n'est pas une option religieuse parmi d'autres. Il y a là quelque chose de très réel et qui va peut-être dissiper les brumes et les brouillards des idéologies et des sagesses fabriquées par le monde. Il y a dans la fidélité au Christ, reconnu comme fils, la découverte que nous sommes vraiment des frères et des sœurs et que nous avons à porter le souci des uns des autres. Nous sommes membres d'un même corps. La joie de ce corps ou la souffrance de ce corps rejaillit toujours sur les membres. Alors voilà, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Je crois que c'est peut-être une conclusion possible.
Voilà, merci beaucoup. Alors, si vous en êtes content de ce groupe, eh ben, on pensait reprendre un peu, continuer l'année prochaine, avec le thème que proposait peut-être notre ami et frère le pape Jean-Paul, non, c'est Benoît XVI.
L'évêque de Rome.
L'évêque de Rome, voilà, l'évêque de Rome, qui propose de faire une année de la foi. Donc c'est une assez bonne idée. On se dit qu'il y a de quoi matière à aller fouiller dans la Bible pour rechercher ce qu'on entend par là, à commencer par le Premier Testament, l'Ancien Testament, en passant par les Évangiles, par les Actes des Apôtres, les lettres de Paul, et puis d'autres, je ne sais pas très bien ce qu'on va trouver comme texte. On va essayer de vous concocter un petit programme à travers les textes bibliques, comme c'est cette année. Et puis si, voilà, on sera ravis de se retrouver, donc, je ne sais pas, au mois d'octobre, quelque chose
oui,
comme ça.
Il y a de grandes vacances.
Il y a des grandes vacances. Mais ça n'empêche pas de lire l'Écriture, de lire la Bible à la maison. Ça se lit très bien, en fait.
Ou à la plage.
Ou à la plage, ça se lit très bien. Donc, à bientôt. Merci beaucoup.
Merci.